Bienvenue à toutes et tous sur Startup Job Story, le podcast qui décrypte les métiers en startup. Proposé par la Fresh Tech in the Alps, le collectif des startups alpines, il invite à découvrir les métiers de demain à travers le regard de celles et ceux qui les exercent aujourd'hui. C'est Mathilde qui se charge d'interviewer notre invité. Allez, c'est parti!
Bonjour, je suis Laura Colomba et je travaille pour la French Tech in the Alps. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Laurine Zambon. Bonjour Laurine.
Bonjour.
Est-ce que tu peux nous donner le nom du métier que tu exerces ?
Alors je suis Customer Success Manager au sein de l'entreprise Bouy Advocacy.
Ok, très bien, merci beaucoup. On va revenir sur ton métier et du coup le rentrer dans le détail ensuite. Mais avant toute chose, et afin de briser la glace, nous avons demandé à chaque intervenant et intervenante de choisir un objet et de nous dire ce qu'il en représente, ce qu'il signifie pour eux. Quel objet tu as choisi et peux-tu nous en dire un petit peu plus ?
Bien sûr. Alors, j'ai choisi un couteau suisse. Okay. Alors, en fait, j'ai eu une petite réflexion autour de cet objet. Et au début, je me suis dit, je vais prendre un fil, je vais prendre une corde pour représenter le lien que j'ai avec le client. Et puis, en réfléchissant, je me suis dit, ok, mais en fait, mon métier, c'est aussi... on me remonte des soucis, des problèmes, et puis je dois chercher un petit peu quel est le problème ou quelle solution je peux apporter. Donc je me suis dit, j'ai un petit peu un rôle d'enquêteur, donc je vais peut-être amener une loupe. Et puis en réfléchissant, je me dis, d'accord, mais en fait, mon métier, c'est aussi de former mes clients. Ils arrivent, je les forme au logiciel qu'on propose, je passe beaucoup de temps avec eux sur l'accompagnement. Je passe aussi du temps au moment du renouvellement pour réengager les clients sur notre produit, pour continuer le contrat ou élargir le contrat. Je me suis dit, punaise, mais en fait, comment je vais faire pour trouver un objet qui va représenter tous ces différents aspects du métier ? Et donc bah là, je me suis dit, en fait, finalement, je suis un peu un couteau suisse. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à apporter au sein de mon métier. Donc voilà, du coup, je me suis dirigée vers cet objet et je trouve qu'il représente plutôt bien ce que je fais au quotidien.
Un objet que tu as en plus apporté aujourd'hui.
Je ne sais pas si on peut l'entendre, mais il est là.
on l'entend. Et donc, du coup, c'est... Ok, donc il y a vraiment de multiples fonctions. Peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas le couteau suisse, décrire un peu les différentes fonctions. Il a un...
Ah bah là, j'ai un tire-bouchon, un tournevis, une lime à ongles, donc vraiment des choses qui n'ont rien à voir. Des petits couteaux de différentes tailles. Enfin, ouais, il y a vraiment... vraiment tout, et je trouve que c'est un objet quand même assez pratique et assez représentatif, parce qu'en fonction de la partie qu'on ouvre, on a vraiment un objet différent. Donc finalement, mon métier, c'est un petit peu ça aussi. En fonction de la question qu'on me pose et de la raison pour laquelle on me sollicite, je vais tirer une branche différente et je vais proposer quelque chose de différent. Donc voilà, je trouve que c'est assez représentatif du métier de Customer Success Manager.
Et souvent d'ailleurs, dans les métiers, quand on interview les personnes qui exercent des métiers en start-up, c'est souvent le terme qui ressort. Hein. Il faut vraiment être couteau suisse, agile, adaptable, etc. Donc très symbolique aujourd'hui. Et je pense que tu es la première personne dans les intervenants à avoir choisi et avoir ramené un objet. Donc, merci beaucoup.
J'avais eu peur de ça parce que je me suis dit, le couteau suisse, c'est peut-être un petit peu en start-up.
Pas passer les...
Je me suis dit, c'est peut-être ce que tout le monde va prendre. Et puis, c'est vrai que start-up, c'est couteau suisse, mais encore plus mon métier, je trouve. Donc voilà, je me suis dit, tant pis, si quelqu'un d'autre l'a pris, et en même temps, c'est vrai que c'est dans le monde de la start-up, faut l'être aussi, donc tant pis.
Très bien, merci beaucoup Laurine. Est-ce que tu te souviens du métier que tu voulais faire quand tu étais plus jeune ?
Oui, et alors en fait, moi je suis assez gourmande. Du coup, quand j'étais vraiment petite, je voulais vendre des bonbons. Ça, c'était la première chose que je voulais faire. Et après, en grandissant, je me suis pas mal cherchée. À un moment donné, j'ai voulu être architecte. Toute la partie... En fait, ça a toujours tourné autour de l'accompagnement de l'humain. Parce que architecte, c'était pas tellement pour faire des plans. C'était plus pour réaliser les souhaits des gens, voir un petit peu quel univers dans lequel ils étaient et pouvoir proposer quelque chose qui correspondait à ce qu'ils avaient envie. Puis voilà, une maison, on y est tous les jours, il faut se sentir bien. Donc c'était un peu ça que j'avais envie au début. Après, je me suis plus tournée vers le médical. Donc toujours l'idée d'accompagner les gens, de les aider au quotidien. Et puis en fait, au lycée, il y a un moment donné, j'ai eu une prof qui nous faisait faire des débats. Et dans les débats, je me suis vraiment plu dans le fait de convaincre les gens, mais pas les convaincre par tous les moyens, juste d'avoir des arguments et de leur prouver à la fin que pas mon avis était le meilleur, mais en tout cas, on avait un axe de réflexion dans ce sens-là. Ça me plaisait vraiment. Et du coup, bah, ça m'a poussée derrière à plus me tourner vers le commerce, vers cet aspect-là, qui par la suite, bon, je pense qu'on y reviendra après, mais par la suite, s'est détourné un petit peu sur l'accompagnement client.
Parce que justement, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton parcours d'études ? Donc, tu as été au lycée et de ce que je comprends, tu t'es plutôt orientée par la suite vers une école de commerce, c'est ça ?
Tout à fait. En fait, alors, j'ai pas fait une école de commerce directement, mais le parcours est à peu près le même. Après le lycée, du coup, vu que j'aimais bien cet aspect relationnel, je me suis dit que j'allais faire des études donc, de commerce. Au lycée, c'est pas quelque chose qu'on enseigne, on connaît pas trop. Donc, je suis allée dans un DUT technique de commercialisation à Grenoble. À la suite de ça, j'ai eu un petit peu de réflexion. Parce que, parce qu'en fait, un DUT peut nous permettre d'être commercial. C'est un métier qui m'intéressait, donc je me suis dit, est-ce que je continue, est-ce que je m'arrête là ? Dans mes études, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites autour de la gestion des entreprises et d'autres postes. Et en fait, j'ai toujours aimé toucher un peu à tout et je me suis dit, j'ai pas envie de faire que ça. J'ai envie d'avoir d'autres compétences plus globales sur l'entreprise de manière générale. Je suis allée ensuite à l'IAE de Lyon, où j'ai fait une licence sciences de gestion. Entre-temps, j'ai fait une petite coupure, parce qu'entre mon DUT et ma licence, je suis partie en Angleterre.
Ok. Pour travailler ou
Tout à fait. Alors, il y avait deux raisons. La première, c'est surtout que pour entrer à l'IAE, c'est sur concours. Les concours comprennent les maths, le français et l'anglais. Et en fait, j'étais vraiment très mauvaise en anglais. J'ai passé mes concours, j'ai eu mes résultats, et en étudiant mes résultats, donc j'ai pas eu mes concours, en étudiant mes résultats, je me suis rendu compte que c'était l'anglais qui pêchait, où j'avais vraiment un score qui était vraiment pas terrible. Donc je me suis dit, je vais prendre cette année pour pouvoir aller en Angleterre et travailler mon anglais, comme ça l'année prochaine j'aurai mes concours. Donc je suis partie en Angleterre, j'ai travaillé là-bas comme serveuse. L'idée c'était pareil d'être auprès des gens. Et premièrement parce que j'aime le contact humain et secondement pour pouvoir apprendre la langue parce que si je suis fermée à un endroit clos, je vais moins progresser que si je suis au contact des clients. Donc j'ai été serveuse et à la suite de ça, donc en parallèle, j'ai passé mes concours et l'année d'après, j'ai été prise du coup à l'IAE de Lyon. J'ai fait ma licence et ensuite j'ai fait un master management commercial, vente et management commercial.
Bon, félicitations, en tout cas la persévérance et la motivation ont payé... Et donc, du coup, le parcours en IAE, c'était un master, c'est ça ? Une licence et un master
C'est ça, c'est ça. En fait, j'ai fait mon DUT à part, qui a été super bien pour moi, déjà parce que j'ai découvert la partie commerciale. Et puis, l'avantage du DUT, alors je dirais pas qu'il y a des avantages dans les deux cas, mais par rapport à une licence, c'est qu'on va avoir des stages tous les ans. Donc, ça m'a aussi permis, donc, comme je l'ai dit avant, j'ai mis du temps à me trouver. Donc, j'ai fait des choses très différentes. J'ai fait un stage comme assistante en vente à Renault Trucks. Après, j'ai fait un stage dans une agence immobilière, donc rien à voir, donc pour découvrir le métier. Et puis après, du coup, en IAE, la licence et le master que j'ai terminé en alternance.
Et donc, tu me disais tout à l'heure, quand tu es arrivée, que tu as commencé chez Oui Advocacy, donc la startup dans laquelle tu es actuellement en stage. Puis en alternance.
C'est ça.
Puis aujourd'hui, tu as décroché un CDI dans l'entreprise. Est-ce que tu peux un peu nous raconter justement ton arrivée au sein de Oui Advocacy ? Comment ça s'est fait
Bien sûr. Alors, à la fin de mon Master 1, donc on avait un stage à réaliser de 4 mois. Je voulais le faire. Donc à ce moment-là, j'étais vraiment encore dans l'idée d'être commerciale. Ce qui m'attirait et la raison pour laquelle je voulais faire un master, c'était la partie direction management commercial. C'est un métier où, pour moi, il faut avoir de l'expérience. Donc je savais très bien que mes premières années de métier seraient commerciales. Donc j'ai cherché vraiment un stage dans la partie commerciale. À ce moment-là, Oui Advocacy avait besoin d'une stagiaire pour les aider sur ce qui était démarchage, aller chercher les clients, etc. Donc j'ai eu un entretien avec le commercial qui s'est très bien passé. On a tout de suite eu un feeling. Donc ils m'ont gentiment pris en stage. Après le Covid est arrivé, donc les stages ont été remis un petit peu en question. Là, Oui Advocacy a été vraiment super puisque j'avais un stage de 4 mois à la base à faire, mais c'était 2 mois minimum pour valider mon année.
D'accord.
Donc ils m'ont dit, finalement, avec le Covid, les 4 mois sont un peu compliqués, mais on s'est engagé, on t'a dit qu'on te prenait en stage et ça te permet de valider ton année, donc on va réduire à 2 mois, mais on te prend en stage. Et en fait, ça a un petit peu tout déclenché puisque le stage s'est très bien passé. Ils sont aussi très ouverts d'esprit par rapport à l'évolution des postes. Et en fait, à la fin du stage, ils m'ont dit, nous, on adore travailler avec toi. Mais par contre, on pense que tu as une personnalité à plus accompagner le client. On pense que tu es plus... dans le monde commercial, on appelle ça des chasseurs et des éleveurs. En fait, les chasseurs sont ceux qui vont démarcher les clients, qui vont aller les chercher, qui aiment aller convaincre et faire la première signature. Et à l'inverse, les éleveurs, c'est ceux qui vont avoir un client et qui après vont entretenir une relation même après la vente et qui vont les accompagner dans la suite de leur processus au sein de l'entreprise. Et donc, ils m'ont dit, bon voilà, on t'avait pris pour être chasseuse, mais en fait, on se rend compte que tu as une personnalité d'éleveuse. Donc, nous, ce qu'on voudrait te proposer pour l'année prochaine, parce que je leur avais parlé de mon alternance, ils me disent ce qu'on aimerait proposer, c'est le poste de Customer Success Manager en alternance, où là, toi, tu n'auras plus à aller chercher le client. C'est Thomas au sein de We Advocacy qui s'occupe de la partie commerciale. Par contre, une fois que c'est signé, toi, ton travail, ça sera vraiment de les accompagner et de faire en sorte qu'ils restent dans l'entreprise et qu'ils apprécient l'utilisation du logiciel. Donc voilà, ils ont su déceler ça et c'est le poste qu'ils m'ont proposé. Et à la fin de mon alternance, j'étais donc déjà sur ce poste et ils m'ont dit, voilà, on aimerait bien continuer dans cette formule-là. Donc ils m'ont proposé un CDI que j'ai accepté avec plaisir puisque... Bah pour moi, au quotidien, c'est un bonheur de travailler avec eux, donc l'hésitation a été de courte durée.
Bah, à nouveau, félicitations. Et est-ce que du coup, tu t'es aussi révélée à travers ce poste? Tu t'es rendu compte que oui, finalement, c'était vraiment bien, comme tu disais, le statut d'éleveuse qui te correspondait le plus aujourd'hui dans ton métier, ta fonction
Oui, tout à fait. Tout à fait. Je me suis vraiment... Alors déjà, en alternance, je m'en étais rendu compte, puisque finalement, en fait, je me rends compte que ce que j'aime bien... c'est aider les gens. Donc en fait, quand ils viennent vers moi et qu'ils me disent « j'ai un problème », pour moi, je ne me dis pas « oh punaise, il va falloir encore trouver comment on fait, etc. » Moi, au contraire, je me dis « bah, je me dis pas super, je préférerais qu'ils aient pas de problème. » Mais voilà, en tout cas, ça me fait plaisir d'essayer de trouver le problème et surtout de trouver une solution pour qu'après, ils soient contents de leur utilisation. Donc déjà, ça, c'est quelque chose que j'avais vraiment apprécié pendant mon alternance. Et puis, en prenant poste en CDI, bon, on a plus de temps, on a plus de responsabilités, et ça a confirmé un petit peu ce que je pensais sur l'année d'alternance, où l'accompagnement est encore plus important, où je démarre encore plus tôt, puisqu'après, avant, je les prenais vraiment une fois qu'ils étaient formés et plus sur l'accompagnement. Aujourd'hui, les clients, je commence à avoir un contact avec eux dès l'installation du logiciel, je les forme sur le logiciel, donc il y a vraiment une vraie relation qui se construit. Et une relation de confiance, puisque finalement, vu que je leur présente l'outil et que je les forme à l'outil, ça me donne aussi de la crédibilité sur la suite. Parce que quand ils viennent vers moi, ils savent que je maîtrise l'outil, que je le connais. Donc, je suis la personne faite pour les aider lorsqu'ils ont un problème. Et mon objectif n'est pas de leur dire « débrouillez-vous et on verra par la suite ».
Et justement, en parlant de logiciel, est-ce que... Parce qu'au vu de tes expériences passées, tu n'avais pas forcément travaillé au sein d'une entreprise qui utilise des logiciels numériques, technologiques. Le temps d'adaptation qu'il t'a fallu pour t'approprier un peu cette solution, etc. Et justement pouvoir accompagner les clients. Combien de temps ça t'a pris? Comment t'as procédé? Est-ce que c'est quelque chose au départ que tu craignais ou tu savais que dans tous les cas, tu serais en capacité de te former et de rapidement monter en compétence sur la prise en main de cet outil?
Alors moi, c'est une partie qui m'inquiétait pas spécialement. En fait, en dehors de mes études, j'ai toujours été très attirée par l'informatique. J'ai eu aussi un parcours personnel qui m'a amenée à m'intéresser à l'informatique, à m'intéresser au développement, à toutes ces choses-là. En plus, je suis la génération Z, donc je suis née avec... les réseaux sociaux, avec Internet, avec l'informatique. Donc, c'est quelque chose avec lequel je suis plutôt assez à l'aise. Et puis, je pense que j'ai une curiosité naturelle qui fait que n'importe quel sujet que ce soit, j'aime bien voir comment ça se passe. Et au-delà de l'utilisation, j'aime bien comprendre vraiment comment ça fonctionne. Après, c'est vrai que c'est un monde, malgré tout, que je connaissais pas trop. Donc, ça demande quand même un petit peu de temps, comme tout apprentissage. Je pense qu'il m'a fallu un mois pour comprendre globalement le produit, mais pour vraiment le maîtriser à 100%, je dirais qu'il m'a fallu 10 mois, presque un an, je pense, pour vraiment comprendre toutes les spécificités, parce qu'un logiciel, c'est très compliqué. En plus, on propose plusieurs choses, donc il y a aussi plusieurs parties à comprendre. Comme je disais, mon alternance, je les prenais à partir du moment où il y avait... un problème ou une question sur le logiciel. Après, je suis passée sur la formation et l'installation, donc il y a d'autres compétences qui sont venues s'ajouter. C'est des mondes qui sont très différents. Moi, je travaille beaucoup avec les mondes G Suite et les mondes Microsoft, donc Office. Donc c'est pareil, ça ne fonctionne pas de la même manière. Il faut comprendre quelle est la réflexion derrière Google, quelle est la réflexion derrière Microsoft, qui n'est pas la même. Donc non, c'est des choses qui prennent quand même beaucoup de temps et je pense que dans les années à venir, je vais encore apprendre des choses sur le numérique, sur le logiciel. J'ai appris pas à pas à coder en HTML pour aider mes clients. Donc le code HTML, pour faire simple, c'est un petit peu l'alphabet, la manière d'écrire dans le monde web. Il y a beaucoup de langages différents en informatique, mais le web, tout ce qui est page web, etc., c'est beaucoup fait en HTML. Donc voilà, petit à petit, j'apprends, je continue d'apprendre. Encore aujourd'hui, j'appelle l'ingénieur informatique, je lui dis « Écoute, moi, j'ai fait le maximum que j'ai pu en HTML. Maintenant, il y a une partie que sur laquelle je bloque. Est-ce que tu peux m'aider ?» Donc, il me montre. À chaque fois, il ne le fait pas pour moi, il me montre. Donc, ça me permet d'apprendre. Et là-dessus, c'est vrai que... Bah, on apprend tous les jours. Et oui, Advocacy, en tout cas, Samuel et Thomas sont super là-dessus parce que jamais ils me disent « j'ai pas le temps, laisse, je vais le faire ce soir et puis on verra ». À chaque fois, ils prennent le temps de m'accompagner, ils prennent le temps de me montrer. Donc non, pour évoluer, je trouve que c'est super. Et en 2 ans, j'ai appris une quantité de choses que moi, je trouve assez impressionnantes.
Donc le fait de ne pas forcément avoir de compétences en informatique, sur les outils numériques, ça ne doit pas être un frein le fait de s'engager, de rentrer, de commencer son job au sein d'une start-up.
Pas du tout. Au contraire, je pense que déjà, en tout cas, c'est mon point de vue, être sur un poste sur lequel on apprend toujours, mais disons dans lequel on est plus à l'aise. Moi, je trouve que c'est aussi prendre le risque de s'ennuyer au bout d'un moment. Avoir un poste où finalement on n'a pas toutes les compétences dès le début, ça permet quand même de se diversifier et d'apprendre des choses tout le temps. Donc déjà il y a ça. Après je pense que dans n'importe quel poste, de toute manière, on n'arrive pas avec toutes les compétences. Enfin, on a beau se dire « Ok, je suis faite pour ce poste », il y a un moment donné, quand on arrive, on a des choses à apprendre. Donc pour moi, l'informatique ou autre chose, c'est pas un blocage. Dans n'importe quel métier, on va apprendre des choses, on va apprendre le système, on va apprendre l'entreprise, on va apprendre le produit. Et ça change peu importe le poste. Donc finalement, c'est pas si différent que ça. Et puis dans le métier de Customer Success Manager, et c'est la réflexion qu'ont eu les deux cofondateurs, finalement, le lien social est très important. Et avant que j'arrive dans l'entreprise, ils avaient un système où justement c'était l'informaticien qui s'occupait d'accompagner les clients. Et en fait, ils se rendent compte que ça ne fonctionne pas forcément, non pas parce qu'il n'est pas bon, mais simplement parce que déjà lui prend moins de plaisir à accompagner les clients, parce que ce n'est pas forcément ses compétences, ce n'est pas forcément les choses sur lesquelles il est à l'aise. Donc déjà, ça ne lui plaît pas forcément. Et puis, l'accompagnement client, c'est quand même beaucoup de relationnel, même s'il y a un problème technique. Même si j'ai des lacunes techniques, finalement, il y a des gens autour de moi pour m'accompagner dans l'entreprise. Donc, moi, je m'occupe vraiment de faire le lien avec le client. Je fais ce que je peux au niveau technique. Mais derrière, on m'aide, on m'accompagne. Donc non, pour moi, le fait d'avoir aucune connaissance de base en informatique, c'est pas un problème puisqu'on nous accompagne dans le métier. On nous laisse pas gérer la chose tout seul. Donc non, moi, j'ai pas vu de soucis là-dessus.
Ok, très bien. Merci beaucoup. Et justement, donc, tu travailles aujourd'hui chez We Advocacy. On a compris que la solution que vous proposez est un logiciel. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'entreprise ?
Bien sûr. Alors l'entreprise, déjà c'est une entreprise assez jeune. Elle a été créée en 2017. Initialement, c'est une entreprise qui proposait d'harmoniser les signatures d'email. Donc, c'est un logiciel qui vient se mettre sur les boîtes mail. Donc, c'est la raison pour laquelle je parlais de Gmail et de Microsoft, puisque les deux boîtes mail les plus utilisées aujourd'hui, c'est Gmail et Office, donc Outlook. Donc, à la base, on était là pour harmoniser les signatures. C'est ce qu'on fait toujours aujourd'hui, de véhiculer une image de marque qui est la même au sein de toutes les branches de l'entreprise. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font un petit peu... chaque service fait un petit peu sa petite signature. Au niveau de l'image, l'idée, c'était de rassembler un petit peu tout ça. On propose également de mettre des bannières sous les signatures. En fait, on s'est rendu compte qu'en moyenne, un cadre ou plus passe 5 heures par jour sur sa boîte mail. Et en fait, on n'utilise pas ce canal-là pour communiquer. On propose rien, à part on échange, on est en conversation, mais on ne va pas amener d'informations supplémentaires. Donc, on propose de mettre des bannières sous les signatures pour pouvoir communiquer, pour apporter un visuel et pour dire, demain, on a un événement, peut-être que ça peut intéresser certains, ou on a mis à jour notre site web, venez voir. Donc communiquer vraiment à travers ces boîtes mail et ces échanges de mails. Et en évoluant sur le marché, on a aussi détecté un vrai problème aujourd'hui au sein des entreprises, c'est l'infobésité. C'est-à-dire qu'en fait, 75% des personnes en entreprise se sentent pas assez informées sur ce que fait son entreprise. On communique par mail, on envoie des mails, mais c'est vrai qu'au quotidien, moi, j'en ai parlé avec ma famille, ma sœur la première, mon père le premier, ils voient passer un mail d'entreprise, ils le lisent en travers, ou parfois quand ils n'ont pas le temps, bah, ils le lisent pas, ou ils le laissent pour la semaine prochaine, et c'est pas lu. Et donc on s'est dit, mais comment faire pour changer ça ?
Parce que ça a un impact sur l'engagement des salariés au sein de l'entreprise.
Tout à fait, tout à fait. Vraiment, l'idée, et d'ailleurs, advocacy, c'est le fait d'engager, c'est vraiment de rendre chaque collaborateur ambassadeur de son entreprise. Dire, bah, je transmets l'information et en même temps, je la récupère. Et si je sais ce que fait mon entreprise, je vais pouvoir en parler. Alors que si je ne le sais pas, bah, je vais me cantonner à ce qui est dans mon secteur, dans mon milieu, et finalement, je ne vais pas faire passer l'information. Et donc, bah, pour ce faire, on est resté sur le constat que les gens passent beaucoup de temps dans leur boîte mail. Et on s'est dit qu'on allait proposer en fait des pop-up, donc des sortes de petites fenêtres qui vont s'ouvrir dans la boîte mail et qui vont donner les informations. Donc il y a un certain nombre de conseils à donner autour de ça, un certain nombre d'accompagnements, parce que l'idée, c'est pas d'envoyer 10 pop-up par jour, sinon le résultat sera le même. Mais en tout cas, les managers des équipes peuvent envoyer une pop-up dans la messagerie qui va s'afficher directement dans la messagerie et qui va proposer du coup le contenu de l'information qui va pouvoir être lisible très rapidement et qui va permettre de dire, bah, si j'ai trouvé cette information utile, je mets un petit pouce vers le haut. Si je trouve que ça sert à rien de communiquer là-dessus, et ben, je mets un petit pouce vers le bas. Donc voilà, on est parti là-dessus. Pour l'information descendante, on a créé un système de sondage pour pouvoir faire remonter aussi les informations, pour récupérer du feedback. Et puis bah, là, les choses évoluent et on se dit, au lieu de passer par la boîte mail, pourquoi pas passer directement sur le PC, sur Windows. Et donc, en ce moment, on est en train de développer une application qui va permettre d'envoyer des petites notifications sur l'écran du PC. Donc, il n'y aura plus forcément besoin d'être dans la boîte mail, plus forcément besoin d'être connecté à son Gmail, à son Outlook. Directement, quand l'information aura besoin d'arriver, elle arrivera sur le PC. Voilà, donc il y a toute une réflexion en ce moment là-dessus, parce que bah, l'idée, c'est toujours pareil, c'est de combattre l'infobésité, donc c'est de ne pas envoyer 10 notifications à l'heure. Donc voilà, il y a un système de priorisation, on peut récupérer les informations par la suite si on les a loupées. Voilà, on a une petite réflexion là-dessus, mais globalement, le logiciel, l'idée, c'est vraiment d'améliorer la communication, que ce soit vers les clients ou en interne dans l'entreprise.
Et ce qu'il y a d'incroyable, et surtout l'avantage d'être en start-up, c'est que du coup, ces évolutions, elles peuvent être amenées très rapidement. Donc, c'est des remontées terrain, c'est des besoins qui sont exprimés par les clients. Et en fait, vous êtes en capacité très vite de pouvoir proposer et d'amener de nouvelles solutions. Et j'imagine que ça, la rapidité d'exécution, enfin de proposition, de création de solutions, d'exécution, c'est quand même assez emblématique d'une start-up qui se veut très agile et qui est justement a un enjeu aussi de pouvoir diversifier et enrichir son panel d'offres à destination, là en l'occurrence, des entreprises.
Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment... bah là, on le voit, l'entreprise a été créée en 2017, donc c'est quand même assez récent. Dans la description du logiciel, je pense que c'est très complet et très complexe parce que, bah, en fait, il y a eu l'évolution dans le temps, premièrement du marché et également des remontées qu'on peut avoir. Donc ça, c'est vrai que bah, déjà par rapport au métier de Customer Success Manager, c'est un des aspects aussi. Je suis en contact avec le client, donc il me remonte les besoins qu'il a. Donc finalement, le fait d'être en startup, c'est super parce que moi, j'ai pas d'intermédiaire avec le développeur, j'ai pas d'intermédiaire avec le directeur général. Donc dès que j'ai une remontée et un besoin que je ressens auprès des clients, je peux directement leur en parler et derrière ça va très vite. Ça va très vite, on est en réunion 2 à 3 fois par jour justement pour discuter avec ces évolutions produits et pour, enfin en une conversation, on en parle, ok c'est intéressant, ok ça l'est moins, bon bah si ça l'est moins, on le note, on garde l'idée. Parce qu'on ne sait jamais, demain ça peut devenir très intéressant. On garde l'idée peut-être pour plus tard. Si c'est intéressant, ok, super. Qu'est-ce qu'on a en priorité ? On a ces deux sujets-là. Il y en a un qui est très important. On reste dessus et on place notre nouveau projet en P2, donc en priorité 2. Ok, on n'a rien qui est plus important. Bon, on le passe direct. Et dans ce cas-là, le directeur informatique... C'est presque dans la minute, il arrête presque ce qu'il est en train de faire pour se mettre sur le nouveau projet. Enfin, C'est vraiment, ça va super vite. C'est très intéressant. Moi, dans la partie, alors c'est moins propre à Customer Success Manager, mais dans la startup, j'ai vraiment un rôle aussi justement sur le développement produit, où bah, je fais remonter les choses. Étant donné que j'ai les besoins derrière, je vais préparer les maquettes pour le développeur. Et ensuite, je vais réaliser les tests pour valider ce qui a été bien fait, ce qui a été moins bien fait. Et bah là, par exemple, pour illustrer un petit peu, l'été dernier, Microsoft a ouvert un petit peu le jeu. Alors, ça va être un petit peu technique, mais pour pouvoir installer les signatures, on a un module qui s'installe sur le poste, donc sur le PC. Et l'été dernier, Microsoft a ouvert le jeu et a permis de créer un module qui s'installe sur le compte Office. Donc là, on n'est plus sur l'ordinateur de la personne, on est sur son compte. Et une fois que c'est installé, qu'il soit sur son PC, sur un autre PC, sur le web, sur son téléphone, le module sera présent et il aura notre outil, peu importe où il se trouve. Et bah, en un mois et demi, on a pu développer le module et l'installer chez les clients. Donc on l'a su en juillet. Le directeur informatique s'est mis dessus début août et début septembre, on le commercialisait. Donc vraiment, en termes de rapidité, on peut difficilement, pour moi, on peut difficilement faire mieux. Et du coup, bah, ça correspond précisément à ce que cherche le client, quoi. Et ça, c'est super.
Et en parlant des avantages de travailler en start-up, on en parlait tout à l'heure, pareil, au début, avant de commencer l'enregistrement. Et tu me disais que déjà, au sein de ton école, il y avait un peu des débats entre les personnes pour qui forcément la suite... donc leur insertion professionnelle, ça allait être, et leur parcours professionnel, ça allait être dans des grandes entreprises, et d'autres qui, justement, militaient pour s'investir et travailler au sein de start-up, notamment pour les avantages que ça peut représenter en termes d'évolution salariale, etc. Et donc, il y avait vraiment deux camps. Et je serais intéressée pour que tu nous en parles un peu plus, de savoir aussi quels pouvaient être les a priori concernant le travail en start-up, parce qu'on sait qu'il y en a aujourd'hui et qui perdure, et on est aussi là du coup pour les briser ces a priori. Donc je suis super intéressée pour que tu nous racontes.
Oui, alors, effectivement, alors plutôt DUT licence, c'était moins le cas, mais en master, il y a vraiment eu deux clans, un clan pro start-up, un clan pro grande nationale. Gros groupe national. Et en fait, moi, j'ai fait beaucoup, même dans mes stages, j'avais déjà fait beaucoup de start-up. Donc, je connaissais un petit peu le milieu avant d'arriver en master. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'a priori et plein de fausses idées sur les start-up, puisque les arguments principaux des personnes qui voulaient aller dans des gros groupes nationaux, c'était premièrement le salaire et secondement l'évolution. Et déjà, par rapport au salaire, alors ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'on va penser que vu que c'est une start-up, on va être sous-payé. Déjà, c'est pas forcément vrai. Et en plus de ça, on veut gagner beaucoup, en oubliant que l'expérience, on en a peu. Et en oubliant également les possibilités d'évolution. Donc ça rejoint le deuxième argument. C'est que beaucoup disaient bah, « je veux être dans un gros groupe, comme ça derrière, déjà sur mon CV, ça sera super. Et puis au sein du gros groupe, si j'arrive à être manager, ça sera super. Je vais avoir un gros poste, derrière, ça sera porte ouverte à tout. » Sauf qu'en fait, en gros groupe, il faut énormément de temps pour passer manager. Il faut énormément de temps. En général, c'est du 10, 15 ans d'expérience au sein de l'entreprise. Il faut que les postes se libèrent en interne. Il faut être prêt aussi à bouger. Parce que parfois, le poste qui se libère, il est à Marseille, à Strasbourg, à Paris. Donc voilà, il faut être prêt à bouger aussi. Aujourd'hui, en sortie d'école, beaucoup étaient prêts à bouger, mais dans 10 ans, peut-être pas. Donc voilà, je trouve que c'était un petit peu axé dans ce sens-là. Alors que finalement, en start-up, déjà, on ne commence pas forcément en étant sous-payé. Les choses peuvent bouger très vite. Donc on peut évoluer aussi très vite. On arrive sur un poste où, comme je disais, c'est très varié. Moi, j'ai rapidement eu des responsabilités et le fait que ce soit très varié fait que si demain je dois occuper un autre poste, alors je ne connaîtrai pas le poste à 100%, ce qui est normal, mais en tout cas, j'aurais déjà touché une petite partie du poste. Donc, j'aurais déjà un petit peu d'expérience sur ce poste-là. Ça peut arriver dans 2 ans, ça peut arriver dans 5 ans. Tout dépend de l'évolution de l'entreprise, mais en tout cas, ça peut aller très vite. Sur un CV, c'est aussi très valorisant parce qu'aujourd'hui, le monde du start-up se développe. Les recruteurs connaissent de plus en plus ce modèle-là et savent que quand on sort d'une start-up, on a aussi cette pluralité de connaissances et de compétences. Donc, ça intéresse de plus en plus. Et voilà, je trouve que le fait de se cantonner à se dire « je veux une grosse entreprise, comme ça, j'aurai un gros nom », déjà, c'est pas forcément pensé par rapport au métier qu'on va faire tout de suite. Et il faut quand même pas oublier que le matin, on se lève pour faire un métier. C'est important, je pense, de l'aimer. Et puis on se dit pour la suite, c'est toujours pour la suite, j'aurai quelque chose de bien. Mais pour la suite, c'est super, mais fais déjà ce que tu as à faire aujourd'hui. Et puis en plus, pour la suite, tu sais pas comment ça se passera. Peut-être que ton grand groupe t'aura aidé, mais peut-être que ta start-up aura explosé et que tu seras aussi très très bien au sein d'une entreprise où l'ambiance est cool, où les gens te font confiance, où quand il faut faire quelque chose, on te dit pas « Attends, je vais demander au directeur, du directeur, du directeur, du directeur. » Enfin, voilà, au quotidien, c'est super de bosser avec eux, et pour la suite, je peux pas dire que ça sera moins intéressant qu'un gros groupe, quoi.
Comment expliques-tu ton métier à ton entourage, et notamment, par exemple, à tes grands-parents ? Est-ce qu'ils comprennent ce qu'est un Customer Success Manager ?
Alors, c'est assez compliqué. En général, je réduis en disant que je m'occupe de l'accompagnement client. Mais en fait, je trouve que c'est assez dommage de pas bien connaître ce métier, parce que finalement, c'est réducteur. Je parlais tout à l'heure du couteau suisse. Il y a énormément de choses dans mon métier, et de réduire ça à l'accompagnement client, je trouve que c'est assez dommage. Mais c'est pour ça aussi que je pense que c'est bien d'en parler, parce que très clairement, c'est un métier qui rassemble l'humain et l'informatique, et je pense que demain, c'est ce dont les gens auront besoin. Donc pour moi, c'est vraiment un métier d'avenir, un métier sur lequel il faut communiquer et qu'il faut expliquer aux gens que c'est quelque chose de super intéressant qui permet de regrouper deux aspects dont on a besoin aujourd'hui dans la vie quotidienne. L'humain sera toujours là, l'informatique est là et il sera encore là demain. Et finalement, ce métier, c'est un petit peu regrouper ces deux aspects-là.
Et du coup, quel mot tu aurais envie de partager pour encourager nos auditrices et auditeurs à aller travailler dans une start-up ?
Moi, je dirais que ça dépend un petit peu du profil, mais que globalement, si des gens ont envie de toucher à tout, sont curieux et surtout ont envie de faire bouger les choses, je pense qu'il faut aller en start-up parce que on vous donne les responsabilités en conséquence. Et quand vous avez une idée, on vous écoute. Si elle est bonne, on la met en place. Si elle est moins bonne, on vous explique pourquoi. Donc vraiment, il y a une vraie considération de l'humain et de ce que chacun peut apporter. En start-up, on est peu nombreux, donc finalement, si on ne vous prend pas en considération, il n'y a personne dans l'entreprise. Donc forcément, il y a un vrai poids. Et puis je pense surtout que c'est l'avenir. Chaque gros groupe a commencé à un moment donné. Et je trouve que d'être dans une aventure qui va permettre par la suite de potentiellement développer quelque chose de grand, je trouve que c'est beau et je trouve que ça apprend beaucoup. Beaucoup pour aujourd'hui et beaucoup pour demain, pour une autre embauche ou également pour monter sa propre boîte. Enfin, c'est vrai que moi, j'ai suivi un cursus et je suis dans une époque, dans une génération où on nous parle beaucoup d'entreprendre, on nous parle beaucoup de faire par nous-mêmes. Et le fait de travailler dans une start-up, ça montre aussi comment ça se passe, que ce soit en bien ou en mal, parce que c'est pas fait pour tout le monde. Mais en tout cas, ça nous montre ce qu'il faut faire, l'implication que ça demande, les apports que ça va avoir, mais aussi les sacrifices que ça va demander. Et je trouve que pour la suite, ça permet vraiment de se forger et de développer un peu toute cette partie-là.
Merci beaucoup, Laurine, pour ton partage, ton retour d'expérience. Merci également pour ce mot de la fin inspirant.
Merci à toi.
C'était le podcast Startup Job Story. Merci à toutes et tous pour votre écoute. En attendant le prochain épisode, vous pouvez nous suivre sur Apple Podcasts, Deezer et Spotify. Rendez-vous aussi sur www.startupjobstory.com. Merci et à bientôt pour une nouvelle histoire.